cette conférence sur Jeanne d'Arc. Alors, très vite, on m'a demandé de préciser et faire un propos. En sortant, vous allez pouvoir admirer des images de Jeanne d'Arc avec le musée de l'image qui sera juste derrière, avec des lithographies et notamment un cadre de Thierry Dessailly. Voilà, et a priori, c'est très intéressant, donc à ne pas louper. Ce matin, on accueille Marie-Véronique Klein, qui a un doctorat sur Jeanne d'Arc, qui est conservatrice du musée de l'histoire de la médecine, qui a rédigé au moins 4 ouvrages sur Jeanne d'Arc, 11 ans à la direction
du Centre Jeanne d'Arc d'Orléans.
Oui. Du Centre Jeanne d'Arc d'Orléans. Et le dernier ouvrage en date, c'est Jeanne d'Arc en Orléanais. Donc, autant vous dire que Jeanne d'Arc, elle maîtrise et ça va être intéressant de pouvoir discuter un petit peu avec elle de cette figure historique donc, de l'histoire de France. Petite question peut-être un petit peu, l'histoire de Jeanne d'Arc commence où, pour repréciser un petit peu les choses, et elle est née il y a 600 ans.
Alors oui, en fait, cette année, le 6e centenaire de la naissance de Jeanne d'Arc, on dit qu'elle est née le 6 janvier. Les historiens ont convenu de cette date, mais on n'est pas sûr, il n'y avait pas d'état civil à l'époque, donc on ne sait pas si c'est... Mais on pense, d'après son âge, que c'est vraiment en 1412 qu'elle est née. Maintenant, le 6 janvier, il y a des tas d'histoires qui sont autour de ce 6 janvier, entre autres Perceval de Boulainvilliers, qui écrit au pape et qui lui dit que Jeanne est née ce 6 janvier et que les coqs se sont mis à chanter, qu'on a vu des grandes lueurs. Mais c'est déjà donc, et il écrit fin mai 1429, donc déjà à l'époque, c'est le mythe de Jeanne d'Arc. Je voulais juste simplement dire un petit mot. C'est que ce dont je suis le plus fière, c'est que j'ai été l'assistante de Régine Permy. Et c'est elle qui m'a formée et qui m'a poussée à passer un deuxième doctorat sur les sources de l'histoire de Jeanne d'Arc.
Très bien. Cette première partie de l'histoire de Jeanne d'Arc, hein, son enfance, est-ce que c'est peut-être la moins connue et celle qui est plus sujette à débat ? Où on a moins de traces historiques ?
Pas vraiment ça, parce que au procès, en nullité de la condamnation, comme on l'appelle maintenant, il y a tous les témoins d'enfance qui sont là.
Oui, mais parce que... Allez-y, fracassez.
Il y a tous les témoins de son enfance qui sont là et qui peuvent témoigner de ce qu'elle faisait pendant son enfance. Donc je trouve que c'est important.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle faisait pendant son enfance ? Quel enfant était-elle ?
Alors, c'était une enfant à la fois très douce, mais très déterminée. Et alors, elle n'était pas bergère. Ça m'agace. Elle allait garder les animaux au champ, mais la plupart du temps, elle filait, elle cousait, elle s'occupait de la maison avec sa mère.
D'accord. Allez-y.
Et puis, elle était très, très pieuse, ça on le sait, surtout à partir de 13 ans, à partir du moment où elle a ses voix. Eh bien, elle participe au jeu des autres. Elle n'est pas complètement dans son coin ou en train de prier toute la journée. Non, travailler. Elle continue à travailler. Elle va danser et chanter, plutôt chanter d'ailleurs que danser, à la fontaine des Groseilliers, à l'arbre dit des fées. Donc, personne ne croyait. Il n'y a que les juges de Rouen après pour lui dire qu'elle croyait aux fées, mais personne ne croyait. C'était un nom. Et puis donc, à partir du moment où elle a ses voix, elle va plus souvent, par exemple, à Notre-Dame de Bermont. Ça, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais Notre-Dame de Bermont, c'était un endroit où Jeanne allait tous les samedis avec sa sœur Catherine pour porter des cierges. Et Notre-Dame de Bermont, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. Non, il faut y aller. Parce que, vous savez, Notre-Dame de Bermont, cette église a été transformée en bergerie et on a failli la raser. Et puis, il y a une association qui s'est constituée et qui a dit non, Jeanne venait là toutes les semaines, on ne va pas laisser ça comme ça. Et moi, je les connais assez bien maintenant. Et ils sont venus avec des jeunes et tout ça, ils ont tout nettoyé. Et c'est là, pour moi et pour eux aussi, où il y a la représentation authentique de Jeanne d'Arc de l'époque. Parce que l'église on sait d'après les documents que l'église avait été chaulée parce qu'il y avait eu une épidémie de peste. Donc ils ont enlevé la chaux. Et qu'est-ce qu'on a trouvé derrière la chaux? Le doyen Saint Thiébaud de Metz. Et en grattant un peu, au milieu de la chasuble, je ne sais pas comment dire, oui, la chasuble du doyen, ben, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une petite Jeanne.
D'accord.
Deux petites Jeannes. Une avec un casque et une autre agenouillée avec une robe, avec les yeux clairs, d'ailleurs, ça, là, ils sont carrément bleus. D'ailleurs, tous les textes le disent. Et puis, le cheveu, elle n'avait pas les cheveux bruns, même si on a trouvé un jour un cheveu dans un seau de la lettre au Rémois, d'ailleurs, cheveu qui a disparu. Eh bien, là, elle est vraiment blonde, comme les filles de Lorraine. De l'époque.
Ces représentations datent de quelle époque?
Alors, bonne question. Certainement le procès en réhabilitation, et l'épidémie de peste a eu lieu en 1559.
D'accord.
Donc ça ne peut pas être après 1559.
D'accord. On revient un petit peu, on va tirer le fil un petit peu de la vie de Jeanne d'Arc. On l'a vu un petit peu petite fille, donc pas du tout ermite, vous nous disiez, mais en même temps très pieuse. À quel moment est-ce qu'elle a ses voix
Vers l'âge de 13 ans.
D'accord.
Quand elle était, elle le dit elle-même au procès de condamnation, quand elle était dans le jardin de son père, elle entendit, venant du côté de l'église, Saint-Michel. Et c'est là, elle a peur.
Elle a peur d'abord?
Bah oui, parce que il y a de quoi être surpris, enfin, dit-elle. Je sais pas, moi j'en ai jamais eu, je peux pas vous dire.
tout dépend de ce qu'elle dit. Comment ça se passe? Elle en a beaucoup, et à quel moment elle
prend cette
décision?
Oui, alors régulièrement, et Saint-Michel lui annonce la venue de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Alors c'est vrai que dans l'église de Dormy, il y avait des statues de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Alors les détracteurs vont nous dire, bon, c'est parce qu'elle avait vu les statues et donc elle s'est imaginée que les statues lui parlaient.
D'accord. Donc elle a beaucoup de voix.
Oui, régulièrement.
Ça. Régulièrement, pendant combien de temps?
Eh bien, jusqu'à son départ. Et puis après, pour la pousser à son départ, d'aller voir Baudricourt et tout ça. Et c'est les voix qui lui apprennent qu'elle doit mener le dauphin Charles à se faire... couronnée à Reims. Parce que, et pour les gens de l'époque, même si le roi est mort, vive le roi, eh bien là, il fallait quand même le couronnement et l'onction. Et l'onction conservée à Saint-Rémy de Reims pour faire un véritable souverain.
Racontez-nous un petit peu pour le candidat que je suis, comment ça se passe, elle part donc.
Alors, déjà, il faut qu'elle part, et puis ses voix lui disent d'aller voir Baudricourt pour qu'il lui confie une escorte pour l'accompagner. Elle ne va pas partir comme ça toute seule pour faire les 500 km qui l'amènent jusqu'à Chinon où était Charles. Donc elle va voir une première fois Baudricourt. Elle se fait emmener par son oncle durant l'Axarre jusqu'à Vaucouleurs. Baudricourt, c'est le personnage important de l'endroit dont dépend Dormy, Vaucouleurs, donc. Et ce capitaine un peu rude, si ce n'est rustre, est très étonné de voir cette jeune fille dont il connaît bien la famille, puisque le père de Jeanne, ce n'était pas un pauvre laboureur, c'était un laboureur, mais pas, ça veut dire qu'il avait un attelage de chevaux. Il ne faut pas oublier que Dormy, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de chevaux. Donc, conduire les chevaux, au moins à l'abreuvoir, rentrer les chevaux. Et il est tout étonné. Enfin bon, il dit à Durand Laxart, raccompagne-la chez son père et qu'il lui donne une bonne paire de gifles. Ça commence bien. Jeanne ne se laisse pas démonter. Elle retourne le voir une deuxième fois. Là, il est ébranlé. Et ça doit être à ce moment-là, parce que Baudricourt n'allait pas envoyer comme ça Jeanne sans l'autorisation du roi, enfin du dauphin. Et ça doit être à ce moment-là que les courriers partent jusqu'à Chinon pour voir comment ça se passe. Et donc, la troisième fois, quand Baudricourt, on lui dit, va et advienne que pourra, eh bien, le pays, en tout cas les gens qui attendaient d'être libérés, donc les Armagnacs, côté Armagnac, savent déjà qu'il y a quelqu'un qu'on va envoyer pour aller voir le dauphin, le faire couronner, et puis libérer. Et puis là, ça va être aussi qu'il va falloir libérer Orléans.
Ça veut dire, quand vous dites la région, c'est-à-dire qu'il y a un élan qui la pousse, il y a un espoir,
les gens vont couleur, oui, et puis de partout, après, elle représente un espoir. À Orléans, ils se disent, ils se sentent comme des assiégés, enfin, surtout quand elle va arriver. Mais enfin, la rumeur court vite. Dunois est au courant très vite aussi qu'on lui envoie une jeune pucelle. Au départ, il n'était peut-être pas très content. Mais alors, les gens de Vaucouleurs, eux, ils sont, même s'ils sont dans l'enclave du Barrois qui est rattaché au domaine de France, qui fait partie du domaine de France plutôt, eh bien, ils sont très contents d'avoir Jeanne et c'est eux les premiers qui vont lui donner des habits d'homme. Et ça, je crois qu'il faut un peu insister là-dessus. Ça ne les gênait pas du tout de donner l'habit d'homme dont on lui fera le reproche et pourquoi elle sera brûlée. Et c'est eux qui se cotisent pour lui payer des housseaux, parce qu'elle avait des robes, et puis tout un habit, et un cheval. Le duc de Lorraine aussi, pourtant lui qui était pro-bourguignon, l'a fait venir, parce qu'il a entendu parler de cette jeune fille, il était malade, et il se dit, elle va peut-être me guérir. Donc elle va voir le duc de Lorraine, elle y va à cheval, jusqu'à Nancy. Et Saint-Jean-de-Port. Et puis, il est très étonné, et elle est très franche avec lui. Elle lui dit que déjà, qu'il reprenne sa bonne épouse et qu'il mette à la porte sa maîtresse, qui lui avait donné d'ailleurs 5 bâtards déjà. Alors, non, mais malgré ça, il lui offre un cheval.
D'accord. Comme quoi ?
Donc, comme quoi ? Et donc, il y a déjà. Elle est portée par tous ces gens-là. Baudricourt lui remet une épée. Baudricourt la laisse partir et demande qu'elle soit accompagnée. Et tout de suite, les deux écuyers qui sont auprès de Jeanne vont l'admirer. Alors il y a les écuyers, puis il y a leurs serviteurs. Enfin, c'est une petite troupe. Et puis il y a quand même des archers. Enfin, ils sont 7-8, hein, mais enfin, quand même. Et puis surtout, il y a le porteur de messages du roi qui les accompagne, qui lui a tellement l'habitude de faire le trajet, il sait par où passer pour éviter les bourguignons, il sait où sont les guets et tout pour traverser les rivières. Donc c'était important que Richard soit là.
Ils partent donc, et qu'est-ce qu'il a bien ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il a bien ?
Qu'est-ce qu'il a bien ?
Quelle est la suite de cette histoire ?
Au bout de 11 jours, enfin, il s'arrête d'abord à Saint-Pierre de Fierbois, où Jeanne va aller faire chercher une épée qui était derrière l'église. Et puis, cette épée qu'on a dit, l'épée de Charlemagne, bon, d'accord. Mais Jeanne continue sur Chinon. Et là, elle attend, elle fait envoyer une missive au dauphin Charles pour lui demander de la recevoir. Le dauphin accède à sa demande. Alors là aussi, l'imagerie, c'est-à-dire l'imagerie populaire, qui représente Jeanne reconnaissant le dauphin au milieu de 300 personnes. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on oublie de dire, ça, il faut regarder un peu les textes de près, c'est que le premier entretien avec Charles, il y a 5 personnes. Alors comment elle a dû le reconnaître ?
Il y avait déjà syndicat et police, quoi.
Enfin bon, alors c'est comme l'histoire où il prend la place. Il fait mettre sur son trône son cousin Bourbon. Ça rime pas vraiment à grand-chose. C'est le mythe.
Une première rencontre.
Première rencontre, et c'est là où tout de suite, il demande à la voir en particulier. Et Jeanne lui dit exactement la prière qu'il avait faite, dont il avait parlé à personne. Et donc là, il est tout rayonnant de joie, lui qui fait toujours l'air triste. Après, les gens sont vraiment très étonnés parce qu'il a l'air très joyeux. Et donc, il se dit, c'est vraiment quelqu'un. Et Dieu sait s'il en avait reçu quand même des jeunes femmes ou des plus âgées qui venaient lui dire qu'elles allaient libérer le royaume avec lui apportant des prophétesses. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et elle lui dit qu'elle veut libérer Orléans.
D'accord. Alors, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs femmes qui sont venues...
Oui, avant Jeanne.
Avant Jeanne.
Oui, oui, c'était commun, enfin commun. Ça se faisait à l'époque.
D'accord. Alors, pourquoi Jeanne, du coup, enfin, a eu un impact supplémentaire?
Il recevait ces femmes et il se rendait bien compte que c'était pas ça. Mmh. Et que là, ce qu'elle lui dit, lui révélant la prière qu'il avait faite, ça l'a marqué. Et puis elle lui dit, alors là aussi, on a beaucoup, elle lui dit, mais elle l'encourage. Elle lui dit, tu es le vrai roi de France, mais après ton sac, maintenant, et parce qu'il doutait de sa légitimité, non pas biologique, mais comme le traité de Troyes avait été signé. Alors là aussi, il faut. Les gens lisent un peu trop, soi-disant. Dauphin, en parlant de Charles, ben, ça veut dire ce disant, c'est qu'ils lisent un peu, mais bon, ça c'est vrai que c'est des textes qu'on ne lit pas. Et puis il faut connaître un peu de latin quand même. Ce disant dauphin, donc ça c'est quand même une différence. Donc, et puis le royaume, le traité de Troyes donne le royaume au fils de Catherine et du roi Henri V. Le futur Charles VI. Henri VI, je veux dire.
Comment, en termes de force politique en présence, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs courants à la cour, voilà. Et que tout ça, c'est pas simple, comment est-ce que Jeanne arrive à s'imposer? J'imagine qu'il y a peut-être des inimitiés. C'est facile, tout ça?
C'est pas facile.
Comment ça
parce
se passe?
Parce qu'il y a deux conseillers, en tout cas, deux des conseillers du roi. La Trémouille et Regnault de Chartres, qui sont très opposés à Jeanne. D'ailleurs, ils le seront toujours. Bon, ils sont obligés d'après de s'incliner. Et puis, il y a les soldats, eux, enfin, ceux qui sont plus guerriers, qui au contraire veulent continuer. Ils ont perdu toutes les batailles jusqu'à présent. Ben là, si on peut lever le siège d'Orléans, eh bien, il faut le faire, il faut se battre.
Alors, concrètement, donc, comment ça se passe? Ils partent tout de suite lever le siège?
Non, parce que Charles est toujours un être inquiet qui veut être sûr. Donc, il va faire examiner Jeanne, et pour cela, on va envoyer Jeanne à Poitiers, où elle va être examinée par les docteurs de l'église de l'université parisienne, une partie qui est restée fidèle au dauphin, à la couronne de France, qui se sont réfugiés à Poitiers, puisque Paris est aux mains des Anglais. Et ceux-là sont fidèles à Charles. Et donc, ils vont examiner Jeanne pendant 3 semaines, quand même. Ouais. Et ils sont tellement... Ils sont subjugués, eux aussi, qu'ils disent au roi, c'est dauphin, puisqu'on peut bien s'aider d'elle. Parce qu'on ne peut pas faire trois. Et c'est là où il y a le premier examen de virginité, puisqu'elle se disait Jeanne la pucelle. Jeanne d'Arc, on ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc de son temps. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
On l'appelait Jeanne la Pucelle?
Jeanne ou Jeannette. Dans mon pays, on m'appelait Jeannette. Et quand je suis venue en France, c'est-à-dire dans le royaume, eh bien, on m'a appelée Jeanne.
Ces examens pendant 3 semaines, j'imagine qu'il n'y avait peut-être pas que ce test-là. En quoi ça a consisté?
Non,
ils
sont subjugués parce qu'ils lui posent des questions sur sa foi, sur ses voix. Elle ne veut pas trop en parler. Elle dit que ce qu'elle a révélé, c'est surtout au dauphin. Mais enfin, bon, elle n'est lue d'aucune question.
D'accord.
Et ses voix, elle explique un petit peu. Et d'ailleurs, au procès de réhabilitation, un des examinateurs qui posait des questions, Seguin, se rappelle que quand il a demandé à Jeanne quelle langue parlait vos voix, et elle lui dit, elle lui répond, et là on voit une des réparties aussi de Jeanne bien, bien sentie, leur langage était bien meilleur que le vôtre. Et alors il ajoute assez penaud, il faut dire que je parlais limousin.
Okay. Elle obtient cet examen, entre guillemets, elle repart de Poitiers.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Eh bien, à Tours, on va lui faire son armure, payée par le roi. Mmh. Et puis après, ça passe sinon Tours. Et puis, il faut avoir Là, avec l'armée, le ravitaillement, parce qu'il n'y a plus rien, puisque Dunois avait perdu la bataille des Harengs pour faire rentrer le fameux convoi de vivres qui était destiné aux soldats anglais. Pourtant, ils étaient beaucoup plus nombreux. Dunois, d'ailleurs, va être blessé à ce moment-là. Et la ville commençait à souffrir cruellement de la faim. Donc, on va faire un convoi, en partie payé d'ailleurs par la Yolande d'Aragon, qui a toujours soutenu son gendre et qui a soutenu Jeanne aussi. Et d'ailleurs, c'est elle qui fait faire le. C'est sous son autorité. Ah oui, ça aussi, les gens qui disent bon, comme si la duchesse Yolande d'Aragon allait examiner elle-même Jeanne. Enfin, c'est les matrones qui examinent. Enfin bon. Vous avez dans des livres des bêtises comme ça. Enfin, les gens ne connaissent pas.
Donc ils partent.
Bon, donc ils partent. Le roi ne l'accompagne pas. Le dauphin, ça ne va pas, je fais comme les autres. Non. Le dauphin n'accompagne pas l'armée. Et l'armée, à travers la Sologne, va arriver devant Orléans. Et là, alors bien sûr, les Orléanais l'attendent avec force, joie. Ils sont surtout contents aussi d'avoir le convoi de ravitaillement, parce que depuis le temps qu'ils attendaient ça. Et Dunois un peu dubitatif quand même. Et Jeanne, qui ne connaissait pas bien la géographie, dit, mais oui, mais là, il faut traverser la Loire. Enfin, pourquoi vous m'avez fait passer par là ?